Si nombreux pour ce nouveau rendez-vous pour l'info santé qui a été créé il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Je vois des fidèles qui sont toujours là, il y a des petits nouveaux aussi. Il y en a, c'est la première fois que vous venez au pôle info santé? Oui, eh bien, bienvenue à vous, on est content de vous accueillir ici. Alors le pôle info santé, c'est le fruit d'un partenariat, je le répète à chaque fois, mais c'est très important, entre le CHU, dont l'une des missions, vous le savez, c'est l'éducation à la santé, et puis l'espace Mendès France qui nous accueille ici, qui est un centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, eh bien, c'est de vous permettre tout simplement, à vous, grand public, d'échanger avec des professionnels de la santé, du milieu hospitalier et généraliste. Alors nos intervenants, bien sûr, vont se présenter dans quelques instants. Ils vont vous présenter également le sujet de ce soir, Centre régional cardiovasculaire. Pour qui, pourquoi, comment? Je vais, sans dire de bêtises, regarder mes fiches, vous dire tout de suite la journée porte ouverte pour ce centre. Ce sera les 3 et 4 décembre à partir de 13h jusqu'à 18h. Donc si vous voulez aller aux journées porte ouverte pour découvrir ce centre qui ouvrira en janvier, 3 et 4 décembre prochain. Voilà. À la fin, tout à la fin de leur exposé, vous allez pouvoir poser des questions. Donc je viendrai dans la salle. Pour ceux qui sont habitués, vous connaissez le principe. Vous levez la main, comme à l'école, ça évite qu'on crie, et je viendrai vous tendre le micro, tout simplement parce que ce qu'on va se dire ce soir est enregistré pour être mis sur le site internet du CHU et de l'Espace Mendès France, qui va vous permettre de réécouter tout ce qui se sera dit ce soir. Si vous avez loupé quelque chose, vous avez une séance de rattrapage tranquille à la maison pour les longues soirées d'hiver. Si vous êtes timide, ça peut arriver aussi, vous n'êtes pas obligé de parler dans le micro et de lever la main, vous pouvez juste me tendre une petite feuille qui doit être dans vos dossiers. Vous avez une petite feuille et vous m'écrivez la question le mieux possible, parce que j'ai un petit peu de mal à voir au fur et à mesure. Ça fait 20 ans quand même, non? Presque. Donc écrivez bien en gros et bien correctement, et comme ça je pourrai lire votre question à nos invités. Tout est clair pour vous? Tout est bien? Oui, vous êtes sage, c'est bien, c'est la rentrée. Vous avez également entre vos mains un document qui est une fiche en fait d'évaluation. Ces documents qui sont assez intéressants parce que quand vous allez les remplir et nous les remettre à la fin, eh bien, ils vont nous permettre à nous d'être au plus près de vos attentes et de faire encore mieux la prochaine fois. Donc nos hôtesses seront là à la sortie tout à l'heure. Il y aura Christine entre autres qui sera là pour réceptionner vos documents. Vous n'oublierez pas de les remplir. Ça prend quelques petites secondes. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables également. Et je vous souhaite donc la bienvenue à cette 112e conférence, Pôle Info Santé, ici à l'Espace Mendès France. Je vais vous présenter nos intervenants, le professeur Pierre Corbi, chef du pôle cœur-poumon vasculaire donc au CHU de Poitiers, chirurgien cardiaque. Bonsoir. Le professeur Joseph Halal, chef du service médico-chirurgical de cardiologie au CHU. Bonsoir. Et le docteur Alexandre Chabrin, cardiologue libéral à Poitiers. Bonsoir. Je vais donner le micro au professeur Pierre Corbi qui va démarrer cette soirée. Merci.
Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir de venir présenter cette belle réalisation, ce nouveau visage de l'hôpital, quelque chose que nous attendions, nous professionnels de santé, beaucoup. Et dans un premier temps, je vais donc vous faire une explication un peu plus logistique de cette réalisation. Donc, pourquoi un CCV régional? On a été rapidement confronté dans le domaine de la pathologie cardiovasculaire à une augmentation des maladies à traiter. C'est quand même la première ou une des deux premières causes de mortalité en France et dans les pays de l'OCDE. Un développement des techniques avec des techniques de plus en plus complexes, qui dit technique interventionnelle opératoire, dit moyen post-opératoire et dit réanimation, salle de réveil et tout ça. Et nous avions à nous mettre aux normes par rapport à toutes ces techniques avec des équipements lourds, à la fois sur le domaine cardiovasculaire et dans d'autres domaines. Ce qui nous a conduit à une réflexion conduisant à construire un nouveau bâtiment branché sur l'ensemble de l'hôpital, qui constituera donc avec ça un ensemble unique sur l'hôpital. Il n'y en aura plus un système pavillonnaire de prise en charge des maladies cardiovasculaires, mais un ensemble unique. On était enfin, quatrièmement, gênés parce que la pathologie cardiovasculaire était divisée sur le CHU. Nous avions un pôle un peu logistique sur la cardio-chirurgicale et la cardio-médicale sur Beauchamp, et le reste du plateau technique, le reste du traitement des maladies, notamment la chirurgie vasculaire, les réanimations, la grosse imagerie qui était sur Jean-Bernard. Le pari a donc été de rapprocher Beauchamp pour répondre à tous ces challenges, augmenter la capacité d'accueil, nous mettre aux normes et nous mettre vraiment au dernier cri des techniques de recours et des techniques interventionnelles et regrouper l'ensemble des pathologies cardiovasculaires. Parce qu'en effet, autant en pathologie cardiovasculaire, on a une action transversale sur ces maladies que mes deux collègues développeront tout à l'heure, hein, les maladies valvulaires coronariennes, rythmiques, les pathologies de l'aorte, l'insuffisance cardiaque. Hein, comme vous savez, on a sur le CHU la chirurgie cardiaque et l'assistance circulatoire. On est en mesure d'aller mettre des patients sous assistance circulatoire dans la région et de les ramener avec cet appareil d'assistance sur le CHU. Et on traitera aussi les pathologies artérielles et veineuses. Mais on fera aussi sur ce bâtiment cardiovasculaire toute la chirurgie pulmonaire. On aura un plateau d'imagerie extrêmement élaboré avec une IRM dernier cri, 3 Tesla pour ceux à qui ça dit quelque chose, et un scanner à double arceau qui est extrêmement performant en exploration coronarienne. On aura le traitement des pathologies neurovasculaires. Alors les pathologies neurovasculaires, ça s'adresse à quoi? Ça s'adresse à l'hémiplégie, aux accidents vasculaires cérébraux, avec une salle dédiée à la désobstruction des artères cérébrales. Donc vous voyez, là, on dépasse un peu les spécialités proprement de la cardiologie et des spécialités voisines. On sera amené à coexister avec le service de néphrologie qui se trouve impacté et réintégré dans ce nouveau bâtiment, ce qui sera très intéressant en matière de transplantation rénale parce que nos collègues de chirurgie vasculaire interviennent beaucoup en matière de transplantation rénale, à la fois sur l'acte et sur la création de fistules, mais parce que nous avons aussi l'ambition, et c'est déjà en cours, de déposer conjointement avec eux un projet d'autorisation de transplantation thoracique, cardiaque, pulmonaire et donc rénale qui existe actuellement sur le CHU. Enfin, comme vous allez voir sur les diapos suivantes, on centralise tout le plateau de réanimation de l'hôpital, puisqu'on en profite pour rénover la réanimation neurochirurgicale qui en avait bien besoin et qui n'était plus aux normes, transférer bien sûr la réanimation cardiochirurgicale qui était sur Beauchamp, rénover les deux réanimations, et on se retrouve sur une même unité de lieu avec un ensemble assez énorme de 4 réanimations et de tous les lits un peu chauds, USC, salle de réveil, etc. Donc comment ça va être situé? Vous le verrez bien sûr si vous venez aux journées portes ouvertes. Eh bien, si vous vous souvenez du CHU, le bâtiment qui a la vague, le bâtiment gris, où il y avait les réanimations, quelques blocs et la salle de réveil, on a branché ce gros bâtiment qui est jaune et blanc qu'on voit sur les photos et qui fait partie intégrante maintenant. On n'a pas fait un satellite de plus destiné à avoir un boyau de plus et un brancardage de plus, mais on a réellement intégré tout l'ensemble des moyens techniques que je vous ai énoncés pour venir se brancher sur l'ancien satellite technique, avec une communication transversale qui va nous permettre de communiquer avec l'ensemble, et là on transforme cet hôpital en un monocyte, c'est-à-dire que sans sortir, on peut amener un malade sur toutes les spécialités de l'hôpital. On va être branché sur Jean-Bernard. Alors, comment ça va se présenter? On a un bâtiment qui fait 3 niveaux. On aura au rez-de-chaussée un ensemble qui constitue toutes les explorations non-invasives, échocardiographie, Doppler, électrodaphore, plus toutes les consultations. La néphrologie qui était initialement dans Jean-Bernard va se retrouver de ce côté puisqu'on a eu besoin de faire un percement. Là, on aura les deux réanimations, chirurgicales et neurochirurgicales. Donc, vous voyez d'emblée un très gros plateau de réanimation. À l'étage du dessus, on aura les unités de soins intensifs. Donc, c'est une unité qui va croître, qui va arriver à 12 puis à 16 lits. On va créer, on en parlera un peu plus longuement, une nouvelle unité sur cet ensemble cardiovasculaire qui est une unité d'hôpital de jour qui va être très importante, qui est dimensionnée pour une capacité totale pouvant aller jusqu'à 14 lits. Là, ici, on a les deux autres réanimations, la réanimation médicale et la réanimation cardiothoracique. Ici, le plateau d'imagerie avec l'IRM et le scanner. Et ce plateau d'imagerie, on le verra tout à l'heure, peut communiquer avec une des salles interventionnelles. Dans cet ensemble vert, on aura l'ensemble de toutes les salles interventionnelles anciennes et créées, puisque nous créons des salles interventionnelles. Il y aura deux salles de rythmologie. La rythmologie, c'est les pacemakers, c'est le traitement des troubles du rythme. Le professeur Rall vous en parlera. Il y a les deux salles de coronarographie. On aura ensuite un couloir plus de blocs avec une salle plus dédiée à la neurochirurgie qui avait besoin de rénovation, et on profitera de ce bâtiment pour les mettre un petit peu sur des techniques plus modernes. Et cette salle de neurochirurgie a la particularité qu'elle peut communiquer avec l'IRM et pouvoir saisir et faire des IRM aux patients opérés en interrompant le flux des malades externes. On aura deux salles de chirurgie cardiaque de CEC conventionnelles. On aura une salle de chirurgie thoracique, une salle de chirurgie vasculaire, la salle de traitement des AVC, la salle des neurologues biplans, et enfin une création importante qu'on attendait, qui est la salle dite hybride, puisque pour les procédures les plus modernes, qui sont très interventionnelles, mais qui requièrent quand même des normes chirurgicales, nous n'étions pas aux normes à Beauchamp, et il fallait une salle qui puisse à la fois avoir des critères d'accueil opératoire, une table d'opération classique avec toutes les normes opératoires, et à la fois une imagerie des plus modernes qui comprend l'imagerie radiologique, mais couplée aussi à l'échographie, avec des possibilités techniques les plus modernes. Enfin, en haut, on aura les ailes d'hospitalisation classiques, deux unités de 30 lits de cardiologie, une unité de 26 lits de chirurgie thoracique et cardiaque et de chirurgie vasculaire. Donc, au total, cette nouvelle réalisation va nous permettre beaucoup de choses et va bien sûr impacter beaucoup les maladies cardiovasculaires et leur entourage et aller au-delà, puisqu'elle va nous transformer l'hôpital en un hôpital monocyte centralisé avec un plateau d'accueil très lourd. J'insiste là-dessus parce que d'avoir autant de places de réanimation mutualisées, ça permet de prendre pour le recours régional des patients en délicatesse et qui ont besoin de techniques évoluées comme le CHU. Donc ça nous rend très performants au niveau régional pour l'accueil de ces malades lourds qui sont en détresse cardiaque, en détresse infectieuse, enfin en polytraumatisme, tout ce qui concerne la pathologie lourde. On va donc ainsi pouvoir s'inscrire vraiment dans le recours sans la limitation qu'on connaît actuellement par rapport aux moyens post-opératoires. Le patient étant au centre de toutes les spécialités, parce que vous avez vu, on n'a pas segmenté en disant là, il y a la cardiologie, là, il y a la chirurgie, il y a ceci et là. On va pouvoir, on a pu et on réfléchit à des nouveaux modes d'hospitalisation. L'hôpital de jour, on en a parlé tout à l'heure, ça sera développé. L'hospitalisation des patients le jour de l'intervention, on va essayer de les faire venir le moins possible la veille et de les faire attendre. On va créer des lits hôteliers qui sont dans cette mouvance. Et on a une réflexion qui va pouvoir aller sur une prise en charge multidisciplinaire de gros problèmes de pathologie, ça sera développé. On a pu avoir une réflexion, puisqu'il nous manquait la médecine vasculaire, on avait la chirurgie vasculaire, on n'avait pas la médecine vasculaire. L'ensemble de ces transformations a pu nous faire créer, voici maintenant quelques mois, l'unité de médecine vasculaire qui va pouvoir enfin être intégrée et exister sur le CHU. On prend une orientation qui est délibérément technologique, de recours, qui va aller vers les techniques les plus modernes et les prises en charge les plus modernes des maladies cardiovasculaires. On va bien sûr aller vers une augmentation générale de la capacité de chirurgie cardiaque qui était un peu critique par rapport à la capacité antérieure et nous mettait un petit peu en difficulté. On pourra sainement et sereinement envisager un projet de transplantation des organes intrathoraciques, pulmonaires et cardiaques. Et enfin, on a une volonté affichée de s'inscrire dans la recherche en installant d'emblée deux unités construites, financées et visibles de recherche, une centrée sur l'imagerie et l'autre sur le dispositif médical innovant. Voilà. On a aussi une volonté affichée d'ouvrir ce plateau technique aux praticiens libéraux, aux praticiens d'autres CHU qui voudraient faire des techniques de recours et qui ne les ont pas sur les anciens hôpitaux de la grande région. Voilà, merci pour votre attention et je vais maintenant passer la parole à mes collègues le prof, pour parler plus de pathologie. Là, aujourd'hui, c'est essentiellement cardiologique, le professeur Halal et le docteur Chabrin.
Bien, merci Pierre. Bonsoir à tous. Je suis également ravi de vous retrouver. J'en connais certains d'entre vous et je les salue et je salue également l'ensemble de l'Assemblée ici. Alors, l'intitulé qu'on a demandé de traiter, c'est pourquoi, pour qui et comment un centre de cardiovasculaire au CHU de Poitiers. Alors, je vais parler de deux choses. Pourquoi d'abord ? À partir de données épidémiologiques. Alors, données épidémiologiques, ce sont des experts qui prédisent l'évolution des maladies et qui nous permettent d'anticiper ensuite leur prise en charge. Donc, ils anticipent l'évolution de ces maladies sur 10-15 ans en disant, voilà, attention, ce type de maladie, en fonction de connaissances actuelles, risque d'augmenter ou risque de baisser dans le temps. Et le deuxième point, le pourquoi, l'évolution des techniques médicales et notamment cardiologiques, mais au sens large du terme vasculaire, sont de plus en plus importantes, prennent de plus en plus de place dans notre stratégie thérapeutique. Tu peux passer sur. Alors, d'abord, définir les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est ce qu'on appelle l'athérothrombose, c'est-à-dire ces dépôts de cholestérol, de tabac, de ce qui concourt, tous les facteurs de risque qui concourt à former cette bouillie cholestérolémique au sein des artères, quelle que soit la localisation, le cœur, le cerveau, ou les jambes, ou les reins, enfin, quelle que soit la localisation. C'est la première cause de décès dans le monde, ces maladies neurocardiovasculaires. Dans le monde, c'est première ou deuxième en France. Et l'évolution ces dernières années a considérablement diminué la mortalité. Pour vous donner un exemple, l'infarctus était 20-25% il y a combien, 40 ans. C'est passé à 6% à l'heure actuelle. Et pour certaines catégories de la population, on est descendu à 3-4%. Malgré ça, ça reste quand même la première cause de mortalité dans le monde. Suivante. Alors, pour vous donner une idée, uniquement des maladies cardiaques, puis après je parlerai de l'accident vasculaire cérébral, c'est 29% des décès dans le monde. 147 000 morts par an en France. C'est la première cause de mortalité féminine en France. Pardon ? Il y a 66 000 décès liés au tabac en France et on attend 120 dans les 20 prochaines années. Il y a 14 millions d'hypertendus en France et on attend encore plus d'hypertendus dans les 10 prochaines années. 10 millions de patients en France ont trop de cholestérol. 3 millions de patients à l'heure actuelle de diabétiques, et ce chiffre va aller en augmentant. Et on peut associer l'augmentation du diabète avec l'augmentation de l'obésité. Donc vous voyez que tout ce qui concourt à ces maladies neurocardiovasculaires, hypertension artérielle, diabète, tabac, cholestérol, obésité, ne fait qu'augmenter dans le temps. Et ces études épidémiologiques nous montrent clairement que jusqu'en 2025 au moins, on va avoir, diapositive suivante, une épidémie de ce type de maladie. Alors, je vous ai parlé du cœur. Je vais vous parler maintenant des accidents vasculaires cérébraux. C'est la troisième cause de décès en France. Décès et puis, secondairement, beaucoup, beaucoup d'handicap. Hémiplégie, etc. Beaucoup de handicap, soit handicap physique, soit de démence. Et ça représente un grand nombre de patients hospitalisés en France, vous voyez, entre 100 000 et 150 000 séjours, et généralement milieu hospitalier public. Suivante. Donc ces deux caractéristiques, ces pathologies neurocardiovasculaires, ont une thématique commune, c'est l'urgence. Plus on intervient tôt, plus on sauve des vies. L'infarctus du myocarde, on le sait ça depuis de très nombreuses années. Plus chaque minute gagnée, c'est des vies de gagner. Et depuis quelques années, développer également l'urgence, la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, même titre que l'infarctus, c'est les mêmes médicaments, les mêmes techniques pour absorber ce caillot, le diluer et le traiter. Donc, caractéristiques communes, l'urgence et une activité hospitalière conséquente. Voilà le pourquoi du projet. Suivante. Si on tient compte, ça c'est les données médicales, donc une augmentation de l'épidémiologie d'augmentation en fréquence de ces maladies. Si on tient compte maintenant de l'environnement du CHU du Poitou-Charentes, de l'ex-Poitou-Charentes, mais à l'époque de ce projet, on était en 2008, donc personne n'avait anticipé l'évolution des régions. Donc on était en 2008, qu'est-ce qu'on constate dans le Poitou-Charentes ? Population plus âgée que la moyenne nationale, parce que là je vais parler également du vieillissement de la population, du vieillissement de la population, et les deux causes de mortalité principales dans le Poitou-Charentes, on retrouve les maladies de l'appareil cardiovasculaire et des cancers. Donc on retrouve à l'échelon du Poitou-Charentes les mêmes caractéristiques qu'à l'échelon national, et en plus une région un peu plus vieille que la moyenne nationale. Suivante. Donc voilà l'évolution, je veux parler de l'évolution de la population. Concernant les centenaires, 15 000 centenaires en 2010, il est prévu en France 200 000 centenaires en 2060. Voilà, donc si vous voulez investir, il faut investir dans les maisons, comme on l'appelait, de retraite, ou les maisons, les EHPAD à l'heure actuelle. Voilà, il y a des affaires à faire peut-être. Mais en tous les cas, il y aura des patients à soigner. Suivante. Il y aura des patients à soigner, suivante. Parce que la population vieillit. Et parce que ça, donc HTA, cholestérol, diabète, obèse, et vous pouvez rajouter maintenant les casques 3D où on voit une évolution inéluctable, claire, le voilà, le pourquoi, pour des données médicales, on s'attend à une épidémie de ces maladies cardiovasculaires, à l'échelon national, mais également dans le Poitou-Charentes, d'où la proposition du CHU de Poitiers depuis 2008 d'anticiper ça. Donc voilà pourquoi ce projet. Suivante. Deuxième pourquoi, l'évolution des techniques. Suivante. Voilà, c'est une radio du CHU de Poitiers. Hein, c'est en 1896, service ultramoderne de radiologie au CHU de Poitiers. Suivante, voilà actuellement la même salle, et encore cette photo date de 2005 ou 2006, les salles actuelles sont encore plus modernes que ça, donc une évolution considérable, mais considérable, de la technologie, et ça va encore plus vite depuis 5 ans. Suivante, et depuis quelques années, la cardiologie et de façon générale, toutes ces prises en charge des maladies cardiovasculaires, ont besoin d'imagerie de plus en plus performante, de plus en plus présente, ont besoin, donc c'est toute l'imagerie qui est en bas, ont besoin de techniques interventionnelles, des dilatations, quel que soit du cœur, des jambes ou de je ne sais où, de la mise en place de prothèses intracardiaques par voie interventionnelle. Enfin bref, l'interventionnel se développe énormément associé à l'imagerie. Donc, problème médical, indéniable, évolution des techniques, notre pavillon était complètement hors norme, complètement dépassé lorsqu'on se mettait en 2008 et on anticipait l'avenir du CHU en 2020. Donc, voilà le pourquoi, pour qui je vous ai répondu également, parce qu'on s'attend à cette épidémie de maladies neurocardiovasculaires, comment ? Suivante. Voilà. Comment c'est ça ? Voilà la réponse proposée par le CHU de Poitiers. Réunir sur un même site toutes les expertises autour du même malade. Quand vous êtes malade des carotides, il faut vérifier votre cœur. Si vous êtes malade du cœur, il faut vérifier vos carotides. C'est la même pathologie. C'est les mêmes techniques. C'est les mêmes causes. Hypertension, tabac, cholestérol, je ne vais pas revenir. Donc, si vous ne prenez pas en charge ces médicaments, ces facteurs de risque, vous avez beau traiter tout interventionnel, vous ne faites pas votre boulot. Nous sommes tenus de prendre en charge également, outre l'interventionnel, tous ces facteurs de risque. Voilà la réponse du CHU de Poitiers. Se préparer à traiter cette épidémie de maladies neurocardiovasculaires avec des moyens ultramodernes, en regroupant sur le même site l'ensemble des praticiens et des équipes médicales au sens large du terme pour prendre en charge ce malade, avec une grande place de l'urgence, de l'imagerie et d'interventionnel, et avec associé avec les réanimations, le gros, c'est un des plus gros plateaux techniques de réanimation regroupés à l'heure actuelle. C'est un des plus gros en France pour la taille d'une ville comme Poitiers. Voilà pourquoi, pour qui, comment. Je vous remercie.
Alex, je vais passer le dépôt.
Bien, bonjour à tous. Je remercie tout d'abord Pierre Corby qui m'a proposé de venir parler ce soir. Alors en fait, j'étais un peu stressé parce que là, on a vu deux magnifiques exposés et moi, je ne savais pas très bien de quoi j'allais parler après tout ça. Donc j'ai réfléchi. J'ai eu Vanessa Guérin au téléphone. Je lui ai demandé, Madame Guérin, de quoi je pouvais... De quoi allais-je parler ce soir ? Et Vanessa Guérin m'a dit, docteur Chabrin, il faut les rassurer. Alors, les rassurer, bon, je n'ai pas très bien compris, les rassurer de quoi d'abord ? Donc là, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment ça se fait, les rassurer, ils doivent être inquiets. Pour quelle raison ? Alors, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont mal vu les plaquettes ou les affiches, qui ont regardé un peu vite et qui ont vu centre, nouveau centre, tiens... Ils nous font un nouveau Center Park à Poitiers. Je vais voir. Peut-être qu'il y a des nouvelles attractions. Bref, les gens qui viennent pour autre chose que ça, effectivement, peuvent être inquiets. Ce qu'on voit là, ce qu'on a vu avant, le détail sur le nouveau centre, sur les maladies cardiovasculaires, forcément, c'est inquiétant. En fait, ce qui est inquiétant, ce n'est pas d'avoir affaire à ces techniques, c'est en fait d'être malade, tomber malade. Avant, je ne suis pas malade. Avant, je suis bien portant. Il m'arrive quelque chose, ça c'est stressant. Donc à la fin de mon exposé, je vais juste essayer de donner quelques pistes pour voir, pour ne pas être stressé, c'est-à-dire pour ne pas tomber malade. Autrement dit, pour ne pas avoir affaire au centre. Ça c'est l'idéal. Donc pour, avant de répondre à ces deux petites questions, je vais présenter en fait mon activité. Donc moi je suis cardiologue en ville, par opposition à l'hôpital. Avec comme, de façon très résumée, comme filière pour l'ensemble de la population, en premier lieu, le médecin traitant, le généraliste, médecin de famille. Vous allez le voir pour des symptômes, pour des bilans, pour des dépistages. Il vous adresse au cardiologue le plus souvent de ville, parce qu'on est les plus nombreux à consulter. Cardiologue en ville, donc comme moi, que j'appelle aussi cardiologue généraliste, par opposition aux cardiologues qui vont travailler au CRCV, cardiologues spécialistes. C'est les mêmes spécialités, mais maintenant, la technique augmentant, au cours du cursus, on se sur-spécialise avec des cardiologues qui vont faire de l'imagerie, de l'arythmologie, de l'hémodynamique, des remplacements valvulaires en lieu et place avec les chirurgiens, mais bref. Ça, c'est les cardiologues spécialistes. Moi, je fais partie des cardiologues généralistes, généralement le deuxième recours. L'autre voie, évidemment, pour aller au CRCV, c'est la voie de l'urgence, où là, évidemment, on passe outre le médecin et le cardiologue de ville. Diapositive, s'il te plaît. L'activité cardiologique en ville. En fait, il y a trois grands secteurs. Alors, celui du bas... Ben c'est le plus simple, le suivi des maladies cardiovasculaires. Vous avez une maladie, vous avez fait un infarctus, vous êtes suivi, vous êtes traité, c'est la surveillance, c'est l'évaluation annuelle ou plus fréquente, donc ça c'est facile. Les deux autres concernent le mode d'entrée généralement dans nos cabinets, à savoir vous venez pour un dépistage soit systématique, c'est-à-dire un bilan pour le sportif, un bilan à partir d'un certain âge, ou bien parce que vous avez présenté des symptômes, dont vous avez fait part à votre médecin de famille, et il vous adresse en fonction de ces symptômes chez le spécialiste. L'autre grosse activité que l'on va avoir concernant la prise en charge des patients, c'est la prise en charge des facteurs de risque. Facteurs de risque, hypertension, tabac, cholestérol, diabète, etc. Donc vous avez vu qu'ils sont pourvoyeurs des maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que ces facteurs de risque sont, au départ, pris en charge par le médecin traitant. C'est le médecin traitant qui suit le plus grand nombre d'hypertensions par rapport au cardiologue, bien entendu. Généralement, nous, on les voit pour des bilans, pour des hypertensions qui ne sont pas contrôlées, mais le plus grand nombre d'hypertensions est pris en charge par les médecins de famille. Diapositive. De façon résumée, les examens complémentaires qu'on va effectuer en ville sont de deux ordres. Les examens au repos, le plus classique, c'est l'électrocardiogramme. L'équivalent à l'effort, c'est le test d'effort. Un test d'effort, c'est jamais qu'un électrocardiogramme pendant un effort, pour voir s'il apparaît des anomalies. Ce qu'on fait aussi souvent, c'est l'échographie cardiaque. Voilà. Les enregistrements sur 24 heures, soit du rythme, soit de la pression artérielle. Et ensuite, vous avez un ensemble d'imageries qui, là, sont réalisées au CRCV, examen scanner, IRM. D'autres examens, l'échographie d'effort, l'échographie de stress, l'imagerie nucléaire, c'est la scintigraphie. Voilà. L'ensemble de ces examens non-invasifs, nous, cardiologues en ville, nous les réalisons à la polyclinique. Les tests d'effort, les haltères, les scintigraphies. Et en fonction des résultats, nous adressons les patients au CRCV pour les examens invasifs, la coronarographie, par exemple, le plus classique pour la maladie coronaire. Diapositive. Voilà un petit peu pour notre organisation. Alors, en fait, comment éviter les maladies cardiovasculaires? Peut-on éviter les maladies cardiovasculaires pour ne pas être malade? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, en fait, ce n'est pas très simple, parce qu'un élément très important dans l'apparition de ces maladies cardiovasculaires, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est le vieillissement. Ça, on ne peut pas l'arrêter. Les artères vieillissent au cours du temps, elles s'encrassent indépendamment des fameux facteurs de risque, hypertension, cholestérol. Est-ce que pour autant on s'arrête de vivre? Non. Le temps qui passe, alors c'est facile de l'imaginer pour les articulations. Par exemple, quelqu'un qui a de l'arthrose plus jeune, plus tard, on imagine bien. Le vieillissement, ça s'abîme. Et ben, en fait, les artères, le cardiovasculaire, c'est la même chose. Donc ça, là-dessus, on ne peut pas jouer. On va pouvoir jouer sur les habitudes et les facteurs de risque. En fait, les habitudes, ça va être quoi? C'est essentiellement l'alimentation et l'activité physique. Ça, c'est les éléments sur lesquels on va pouvoir jouer. Est-ce qu'avec ça, on va éviter toutes les maladies cardiovasculaires? Sûrement pas. L'idéal, c'est d'éviter les événements aigus. Bon. Une fois qu'on a un événement aigu, la vie ne s'arrête pas, la vie continue. On est traité, on est suivi. Et j'arrive à la dernière diapositive. Je vous la montre parce qu'en fait, c'est la diapositive, c'est le poster qui a le plus de succès dans mon cabinet. Il y a plusieurs posters avec des vaisseaux, des artères en trois dimensions, avec du sang, des cerveaux, bref, des choses où en fait, il n'y a que les enfants que ça intéresse, parce que les adultes, quand ils voient ça, généralement, n'aiment pas trop, quoi. C'est pas très sympathique. Ça, c'est le poster qui marche le mieux parce que tout le monde le regarde et tout le monde est intéressé par ça. Ça, en fait, c'est les habitudes alimentaires, c'est les recommandations de l'INPS. Ça concerne les gens qui n'ont pas de régime hypocholestérolémiant, mais autrement dit, c'est ce que tout le monde devrait faire. Présenté de façon assez attractive, où il y a à la fois l'alimentation et l'activité physique. Voilà. Et donc, c'était là-dessus que je voulais terminer. Donc finalement, on vit, on vieillit, ça c'est normal, le temps ne s'arrête pas. Un événement cardiovasculaire, on est soigné, on est traité. Donc là, on a vu tout à l'heure maintenant dans quel centre ça pouvait se faire. La vie ne s'arrête pas, la vie continue, et puis le plus loin possible, jusqu'au jour où. Mais là, c'est une autre question. Je vous remercie.
Merci beaucoup à vous trois. Alors, je vais venir vers vous. Si vous avez des questions à poser, profitez-en. Moi, je vais faire mes 30 minutes de sport pendant ce temps-là, c'est bien. Alors, je vous tiens le micro. Je vous le tiens.
Bonsoir. Pour l'accueil des urgences, est-ce qu'il y aura un accueil dédié ou ce sera les urgences générales? Car sur les plans qui ont été présentés, je n'ai pas repéré l'entrée des urgences cardiologiques.
Là, la réponse est claire. Il y aura, les urgences cardiologiques seront bien identifiées pour une raison simple. Hein, c'est toujours le gain de temps parce qu'il faut agir très vite. Et donc, les urgences cardiologiques sont comme à l'heure actuelle, bien identifiées avec une entrée directe et puis une prise en charge la plus rapide possible.
Merci.
Donc, si vous voulez, au CHU, en fait, il y aura trois secteurs d'urgence, peut-être quatre. Il y a les urgences générales, pédiatriques, cardiologiques, et puis je dis une quatrième, je pense à l'obstétrique.
Et pour les AVC, ce sera pareil. Ils seront comme les infarctus.
Alors, pour les AVC, c'est un peu plus particulier. Les AVC, l'accueil se fait aux urgences générales, comme à l'heure actuelle. Mais la prise en charge, c'est-à-dire imagerie, thrombolyse et thrombectomie. La thrombectomie, c'est l'aspiration du caillot, ce qu'on appelle thrombectomie, c'est en fait le terme médical. Mais en pratique, on retire le caillot, on l'enlève. Et les fibrinolytiques, c'est des médicaments qui suppriment le caillot médicamenteusement. Et là, cette prise en charge se fera sur le site, sur le centre. Donc, l'arrivée... urgence générale, prise en charge dans cette structure et ensuite hospitalisation dans le service de neurologie. Très Alors bien. C'est vrai qu'à un moment donné, pour parler, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. À un moment, il s'est appelé initialement au début le NCV, on l'appelait NCV, le neurocardiovasculaire, puis on a vu évoluer dans le temps vers CCV. Où le mot N a été supprimé. Mais néanmoins, la prise en charge thérapeutique se fait sur ce site. Après que l'hospitalisation se fasse à droite ou à gauche, la limite, l'essentiel est à l'urgence, c'est au plateau technique. Et c'était le but de ce projet, c'est un gros plateau technique, pour exemple, et moins de lits, moi en cardio, j'ai 15 lits d'hospitalisation de moins, ce qui est quand même pas anodin dans un service qui est plein quasiment à toute année, avec un taux d'occupation qui est près de 100%, et des durées d'hospitalisation moyenne basses pour un service de cardiologie par rapport à ce qui se fait sur le plan national. On a privilégié ce plateau technique lourd au détriment de lits de cardiologie d'hospitalisation classique, et en faisant plus d'ambulatoires, ce qui veut dire qu'on modifie encore notre organisation médicale et on va encore baisser nos DMS parce qu'on doit... Mais ce plateau technique nous permettra, j'espère, il y aura peut-être des week-ends, notamment en hiver, où ça va être compliqué, je ne sais pas, on espère que non, mais en tous les cas, on a un changement radical avec ce type de structure dans l'organisation de la cardiologie, pour ce qui est de la cardiologie.
Mais tu ne crains pas que le passage aux urgences générales et pour un AVC et le transfert chez vous, ça soit une perte de temps?
Ben, la structure, comment dirais-je, l'organisation actuelle, et d'après, je ne suis pas neurologue, d'après les neurologues, elle est optimale. Quand le patient arrive aux urgences, alors il y a un système... régional même, parce qu'il y a de la télémédecine qui s'est inscrite. Châtellerault a averti le neurologue de garde. La Rochelle, où ils ont un AVC. Voilà, il y a des structures quand même qui sont mises en place. Et la filière existe. Elle est optimale. Elle est optimisée avec cette structure de plateau technique. Voilà, l'IRM sera à côté de la salle de neuro-radio-interventionnelle. le neurologue et le neuroradio, il a un couloir à passer, il y a un IRM ou un scanner, il passe la porte et il est dans la salle de cathétérisme pour traiter, faire sa fibrolyse et aller chercher le caillou. Donc, voilà.
L'enjeu pour l'AVC, il est préhospitalier. Il est sur le réseau de prise en charge des SAMU. Ce qu'il faut, c'est un système préhospitalier. Le bâtiment ne peut pas y répondre. Avec un accueil directement sur les salles d'intervention. Et c'est là-dessus que le plan AVC a joué. C'est une charge préhospitalière. Alors qu'à peu près, quelle que soit l'entrée après, il va directement dans la salle dédiée.
Ensuite, pour revenir à la neuro, parce que ça a été un moment, je comprends le public en disant, attendez, pendant des années, vous nous avez parlé de neurocardiovasculaire, maintenant vous basculez à CCV, qu'est-ce qui se passe? Et on peut comprendre ce questionnement. Donc je vous ai expliqué en partie, et l'autre partie, ces patients qui ont fait un AVC, souvent, le caillot vient du cœur. Je vous disais tout à l'heure que c'est les maladies intriquées, hein. Très souvent, le caillot vient du cœur. Donc, dans un AVC, il y a un bilan cardiaque à faire immédiatement. Et l'immédiatement, à l'heure actuelle, n'existe pas. Dans notre structure actuelle, malheureusement, on n'est pas dans la capacité, nous, en cardio, de prendre en charge ces patients le plus rapidement possible. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. On change de stratégie dans ce cas de figure, où la cardio sera à côté, les soins intensifs seront à côté. Les soins intensifs sont complètement équipés, même si on doit discuter sur le nombre de lits, sont complètement équipés pour prendre en charge ces patients le plus vite possible. La structure d'échographie est équipée pour prendre ces patients. Voilà. Donc, c'est vrai que le terme neuro absent pose des questions, mais la réponse sur le malade, elle est, à mes yeux, elle reste optimale. Après que le patient soit hospitalisé au H4 ou au H5, une fois qu'il a eu les soins aigus, bon, après tout, il peut aller dans un autre étage. Il n'a pas besoin d'être sur le site parce qu'il passerait. Hein, c'est je ne sais pas combien de millions d'euros. Et plus vous augmentez les lits, plus vous augmentez... Enfin, on a cherché à optimiser le plateau technique.
Parfait. Des questions? Vous levez la main. J'ai plusieurs questions écrites. Alors la première, est-ce que l'on peut consulter sans passer par son médecin généraliste?
Oui.
Bien sûr. Oui. Bien sûr, en fait, il y a le cadre de l'urgence. Parce qu'en fait, la question, c'est... On peut évidemment consulter sans passer par le médecin généraliste. Après ça, il peut se poser des problèmes au niveau de la prise en charge de la sécu. En pratique, dans le cadre de l'urgence, bien sûr. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
D'autres questions? On me demande, a-t-on des statistiques sur les fréquences des accidents cardiaques la nuit par rapport au jour?
Alors, je n'ai pas de statistiques en réponse cardiaque de jour, mais je vais vous parler un peu de chronobiologie. Et on constate quoi sur l'infarctus? Les infarctus sont plus fréquents dans le monde au mois de février. Voilà, c'est un constat. Pourquoi au mois de février? J'ai pas de réponse. Mais en tous les cas, c'est une constatation à l'échelon mondial. Alors après, entre le jour et la nuit, j'ai pas de chiffres comme ça à vous donner, mais l'infarctus frappe à n'importe quel moment. On est aussi bien dérangé la nuit, on est aussi bien dérangé la nuit que le jour. Le nombre d'infarctus de façon globale a diminué et diminue dans le temps. Donc je ne veux pas non plus rester pessimiste sur tout ce que je vous ai dit sur l'évolution de ces maladies. Il faut garder quand même un certain optimisme parce que le nombre d'infarctus diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des actions, il y a des actions de prévention, hein, y a beaucoup d'actions de prévention sur le tabac, mais ça n'empêche pas les jeunes de rester dans le tabac, parce qu'il y a une industrie derrière qui est particulièrement efficace dans son marketing. parce que l'évolution de la société fait que les jeunes ont accès au tabac et on a beau augmenter les prix, le taux de vente de tabac. Mais globalement, le nombre d'infarctus a diminué, la mortalité a diminué. Par contre, ce qu'on voit plus souvent, c'est avant l'infarctus. Des patients qui sont instables, qui ne font pas d'infarctus, mais qui restent encore quelques heures chez eux, ils basculent dans l'infarctus. Par contre, ce nombre de patients augmente. Le nombre de patients jeunes augmente. Le nombre de femmes jeunes qui augmente, et je parlais tout à l'heure avec la responsable du centre ici, et je vais lui proposer, pas pour moi, mais pour elle et pour la population, de faire une soirée sur cœur de la femme, parce que de façon totalement inadmissible, des femmes qui font un infarctus meurent plus qu'un homme qui fait un infarctus. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays occidentaux, et ce qui est totalement inadmissible, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison entre qu'une femme meure plus d'un problème cardiaque que l'homme. Donc il y a un problème de prise en charge des infarctus chez la femme, et donc on a une augmentation de l'infarctus chez la femme, parce que jeune, j'entends, de moins de 40, voire même de moins de 30, avant, on n'en voyait jamais. Maintenant, c'est toutes les semaines qu'on a ce genre de problème. Et je me permets d'insister parce que c'est un vrai problème de santé publique, fréquent. Et c'est un vrai problème, j'insiste, de santé publique. Parce qu'on parle de mortalité. Hein. Je ne parle pas de choses, je ne suis pas bien, je suis fatigué, je ne peux plus rien faire. Non, je parle de mortalité, de mort. Donc, ce n'est pas anodin comme quand vous dites quelqu'un, vous risquez plus de mourir parce que vous êtes une femme. Donc je me permets de prendre du temps pour insister, parce qu'on ne pense pas qu'une femme peut faire un infarctus, une femme jeune, je répète, parce que maintenant il y a le tabac. Moi je passais dans des lycées en sixième et en première, j'ai fait plusieurs années ces trucs-là. Je faisais des enquêtes dans des classes, toutes les filles fumaient, pas tous les mecs, toutes les filles fumaient. Donc vous avez ça, vous avez la pilule, vous avez le tabac et un peu de surcharge pondérale et vous faites le cocktail. À 30 ans, je fais un infarctus et malheureusement, je ne suis pas bien pris en charge parce que on ne sait pas bien. On dit une femme jeune ne peut pas faire un infarctus, on est resté dans la tête et sont protégées par les hormones, machin, etc. Non, elles sont peut-être protégées par les hormones, mais au bout du compte, elles peuvent faire un infarctus.
Donc vous confirmez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont victimes de maladies, de problèmes cardiovasculaires.
Tout à fait.
Parce quand on regarde un peu autour de soi, c'est vrai qu'on entend souvent des...
Mais on les a, heureusement, un peu avant l'infarctus. On les a plus fréquemment un peu avant l'infarctus.
N'oubliez pas, si vous avez des questions, soit sur les petits papiers, soit vous levez la main. On me demande quels sont les symptômes. Quels sont les symptômes avant d'aller consulter si on a un problème, une douleur dans un bras ou des choses comme ça, quelque chose, des signes qui nous alertent d'un problème cardiovasculaire.
Les symptômes les plus classiques donc qui amènent le patient à consulter le cardiologue vont être la douleur dans la poitrine, douleur thoracique. Alors soit c'est typique, effectivement, ça va dans le bras, ça monte dans les mâchoires, bon là c'est pas très compliqué. Mais finalement c'est pas ces douleurs-là que l'on voit le plus. Parce que, comme je vous dis, celle-ci, c'est pas très compliqué. Donc, les douleurs dans la poitrine. L'autre motif fréquent de consultation du cardiologue, c'est l'essoufflement. Donc, l'essoufflement, alors ça, c'est très vague, hein, l'essoufflement à l'effort ou l'essoufflement dans la vie quotidienne. Les autres symptômes, douleurs thoraciques, essoufflement, les palpitations, les malaises. Et généralement, le médecin traitant, le médecin de famille, au vu de ses symptômes déjà à son idée, le plus souvent, il se débrouille tout seul. Et pour un certain nombre, alors sauf quand c'est typique, mais pour un certain nombre, il a besoin donc de nous envoyer le patient pour qu'on fasse des examens complémentaires. Voilà.
Okay. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'évolution de l'imagerie, on a vu deux photos, il y a une 1800, je ne sais plus combien, et celle de maintenant. Est-ce que justement, il y a une évolution aussi au niveau des traitements, au niveau des médicaments?
Alors, question vaste. Je ne sais plus par quel bout la
Vous avez largement le temps, allez-y.
Alors, les médicaments, nous, en cardiologie, on n'a pas beaucoup de médicaments. On n'a pas beaucoup de classes pharmacologiques de médicaments. Si avec une dizaine de classes, je crois qu'on arrive à s'en sortir. Hein.
Oui.
Voilà. Après, sur les classes, qu'il y en ait plusieurs qui sont à la vente, certes. Mais en gros, on n'a pas beaucoup de médicaments à notre disposition. Alors, les médicaments indispensables, ça reste le médicament du cholestérol, enfin, contre le cholestérol. Et là, il y a eu des évolutions. On peut prendre le temps si vous nous dites qu'on a un peu de temps.
Oui, oui.
Parce que vous avez entendu, lu dans des journaux sérieux à propos des statines, des médicaments qui traitent le cholestérol. Vous avez eu des grands... Pas des 1, il se prend pour un grand, mais il n'est pas professeur parisien à la retraite qui a écrit avec un urologue, Ponte parisien également, sur le danger des statines. Et je peux vous dire qu'en consultation, il n'y a pas un patient qui prenait des statines qui ne nous a pas dit « Mais docteur, vous pensez que j'ai besoin de la statine ?» Parce que j'ai lu que ça faisait du mal et que certains ont arrêté, certains patients, à partir du moment où ils ont lu dans les journaux que ça s'est arrêté et que c'était dangereux, ils ont arrêté de même leurs médicaments. Et ça, c'est dramatique parce que scientifiquement, et toutes les études ont été revues, scientifiquement, ces études sont extrêmement pertinentes et vraies. Contrairement aux affirmations peu scientifiques de ce Parisien à la retraite qui voulait encore rester sûrement en haut de l'affiche, qui a été un des plus grands mandarins parisiens et un vrai mandarin parisien, dans le mauvais sens du terme, et qui a fait beaucoup de tort à la prise en charge de cette maladie de l'hypercholestérolémie par les statines. Donc il y a une grande revue, il y a 3 semaines, une grande revue anglaise qui a revu toutes les études qui ont été publiées ces 10 ou 15 ou 20 dernières années pour analyser leur méthodologie, pour analyser leurs résultats. Et un groupe d'experts indépendants de niveau international qui ont tous confirmé le bienfait de cette prescription de statine dans l'hypercholestérolémie et a fortiori chez ceux qui ont fait un problème coronarien. Pour ceux qui n'ont pas fait de problème coronarien, ça peut se discuter. Moi, là, je ne parle que des patients qui ont fait un problème coronarien, un accident vasculaire cérébral, une atteinte artérielle. À partir du moment où il y a une atteinte d'un vaisseau, quelle que soit sa localisation, ces statines sauvent des vies. Je dis bien sauvent des vies. Donc, on est à nouveau dans des critères durs de mortalité. Et donc voilà, ces statines, pour revenir aux médicaments que l'on utilise, sont indispensables pour traiter ces patients. Et même, je vais plus loin, pour ceux qui ont fait un problème cardiaque et qui n'ont pas de cholestérol, on met ce traitement. Parce que, outre l'action sur le cholestérol, ils ont une action directement sur la plaque, sur la coronaire. Donc vous voyez... Donc il y a des gens qui nous disent, attendez, mais j'ai pas de cholestérol, vous mettez de la statine. Oui, parce que leur action est multiple. Ils ont une action sur le cholestérol, mais une action directement sur la coronaire. Donc ça, c'est pour vraiment, c'est une classe pharmacologique indispensable. La deuxième classe pharmacologique indispensable, c'est le fluidifiant du sang. L'aspirine, le Plavix, enfin voilà, ça c'est des anticoagulants plaquettaires. Ça, franchement, c'est reste indispensable. Le troisième indispensable, c'est le bêta-bloquant. Même si, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en discute maintenant de la nécessité. J'ai les patients qui vont bien. La quatrième, le basique...
Les IEC.
Les IEC, voilà, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, le Triatec, le Coversi, pour vous donner des noms. Donc voilà, on a 4 gros médicaments, plus les traitements de l'hypertension artérielle. Voilà, en gros, 4 classes pharmacologiques. Une cinquième, pour nous, cardio, ça suffit, généralement, après, bien évidemment. Après, la personne âgée est polypathologique, parce qu'il est diabétique, parce qu'il a un rhumatisme déformant, parce qu'il a des sciatiques, parce qu'il a une atteinte bronchique, parce qu'il est, voilà, la polypathologie du sujet âgé qui fait que la prise en charge est complexe. Si vous voyez des patients âgés venir avec 10, 12, 13, 14 médicaments, et obligatoirement, je dis bien obligatoirement, ça ne va pas ensemble. À partir du moment où vous mettez 5 médicaments, il y a obligatoirement des interactions médicamenteuses. Alors, a fortiori, la personne âgée, et on rentre dans ce qu'on appelle la iatrogénie, les complications, les chutes, les hospitalisations pour insuffisance rénale, etc. Donc, la polypathologie de la personne âgée implique de la polymédicamentation et elle pose problème. Et après, nous sommes de plus en plus interventionnels. Voilà. Moins de médicaments et de plus en plus de l'interventionnel qui nous permet, dans un certain cas, de diminuer les drogues.
Merci pour cette réponse très précise. Une autre question. Que pensez-vous des oméga-3 sur les maladies cardiovasculaires et leur utilité ?
Les oméga-3, il y a eu quelques études, notamment en post-infarctus, sur l'intérêt des oméga-3 sur la baisse de la mortalité, autrement dit, sur un intérêt direct, à faire partie des médicaments obligatoires après un infarctus. Bon, c'est un petit peu tombé dans des études, mais les critères forts pour affirmer que c'est un médicament qui doit être indispensable, ces critères, en fait, ne sont plus là. Donc, ça explique d'ailleurs que les oméga-3 ne soient plus remboursés. Donc, un certain nombre de patients ont eu ce traitement, notamment après de l'angine de poitrine ou un infarctus. Et puis, les études ont été revues, l'intérêt d'être pris en charge a été revu, c'est annulé. Donc, de façon spécifique, après un infarctus, l'intérêt des oméga-3, à mon avis, a nettement diminué. Après, ça s'intègre plus dans une hygiène de vie, notamment avec cette diapositive, quand on essaye de manger des acides gras qui ne soient pas saturés, etc. Bref, ça s'intègre plus, à mon avis, dans une alimentation que, pour le moment, comme un traitement à prendre en plus sur l'ordonnance. D'ailleurs, c'est même plus possible, parce que comme c'est plus remboursé, généralement, les traitements sont arrêtés soit par les médecins, soit par les patients directement.
Ok. Une question ? Oui, je vais venir vers vous, monsieur. Tout de suite.
Je vais tenir le micro. C'est aussi une question très simple. Prenez-vous en charge les enfants ?
Non. En interventionnel, on prend dans la charge des enfants un peu dans l'exploration, en coopération avec le service de pédiatrie, dans le débrouillage général, dans le non-invasif, mais autant sur le cathétérisme que sur le traitement chirurgical, que sur le traitement interventionnel pédiatrique, on ne prend pas en charge les enfants. Il faut savoir qu'actuellement, les centres dédiés à la prise en charge des enfants sont extrêmement rares en France et vont se raréfier. C'est quelque chose qui a été extrêmement centralisé.
Par contre, on prend en charge les échographies, tous les diagnostics. Le diagnostic et le suivi des cardiopathies congénitales, on prend en charge le diagnostic échographique. On a des cardiologues spécialisés dans ces cardiopathies congénitales. Et également, on suit les cardiopathies congénitales de l'adulte. Il y a des enfants qui ont des atteintes cardiaques qui deviennent adultes. Et donc ça, également, on sait les suivre. On a des cardiologues spécialisés dans la prise en charge des cardiopathies congénitales de l'adulte. Après, comme l'a dit le professeur Corby, nous ne faisons pas d'un cathétérisme interventionnel. C'est un choix, et c'est un choix dans la grande interrégion, parce que là, on est dans la Nouvelle-Aquitaine, mais pour nous, c'est un peu compliqué en médecine, parce que nous devons travailler encore dans le cadre des hôpitaux de l'Ouest, c'est-à-dire avec Brest, Rennes, Nantes, etc. Donc on est à deux pieds, on est comme ça, écartelés. Et même dans cette immense région de l'Ouest, ils sont deux centres, je crois, à faire d'interventionnel enfant.
Oui, deux centres, et encore, ils ont des problèmes de conformité.
Voilà, et deux centres, et peut-être qu'il doit en rester un. Donc, pour répondre précisément à votre question, nous ne faisons pas d'interventionnel, et nous faisons des échographies pour les cardiopathies congénitales et pour le suivi des cardiopathies congénitales de l'adulte.
Très bien. Oui.
Oui, pardon. Bonjour, messieurs. Quelle est la durée de vie, si je puis dire, des pontages des coronaires?
Ça évolue beaucoup. On peut dire qu'on peut viser actuellement, vu les techniques mises en œuvre, sur 15 à 20 ans. Voilà. Ce qui n'interdit pas d'aller au-delà. Mais pour vous donner une durée de vie à peu près. Si, ça a beaucoup évolué sur les 10-15 dernières années dans le choix des greffons. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus, on a de moins en moins peur d'utiliser des greffons artériels, c'est-à-dire les artères mammaires internes, au détriment des veines. Et alors qu'avant, sur 3 pontages, on était plutôt sur 2 veines, une artère, maintenant c'est plutôt 2 artères, une veine, voire 3 artères. Donc ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et il faut dire une chose, c'est que la cardiologie interventionnelle, les stents, l'exploration des coronaires, qui est de plus en plus élaborée avec des techniques qui vont de plus en plus loin sur le diagnostic de dysfonctionnement des pontages et des stents, est telle que les techniques sont complémentaires et que la plupart des temps, on trouve toujours une solution sur une dysfonction de pontage ou réciproquement pour aller au-delà et faire durer un maximum tous ces pontages. On est vraiment sur une prise en charge qui est maintenant transversale. Voilà.
Merci. Les journées portes ouvertes, c'est en début décembre, et le centre ouvre officiellement quand?
Alors, nous ouvrirons début janvier. Les premiers patients opérés, dilatés, scanographiés, ça sera vers le 7, 8, 9 janvier. Voilà. On ne va pas donner de date précise, mais c'est ça. Et on va passer le Noël et jour de l'an à déménager si certains n'ont pas trop mal au dos pour venir nous aider.
Venir vous donner un coup de main?
Mais l'urgence, ça ne s'arrête pas, hein, 24, oui. 24, 7, 7. Hein.
Ça sera une procédure qui permettra de ne pas arrêter. On n'arrêtera jamais les activités, on fera des opérations. Un peu tiroir pour faire
quand
ça.
Même.
D'accord. Une dernière question? Ah, oh ben, micro, s'il vous plaît.
Est-ce que Poitiers verra les greffes cardiaques?
Alors, nous avons demandé officiellement à la nouvelle agence régionale de santé le printemps dernier et l'été dernier, nous avons transmis un dossier technique concernant notre souhait de pratiquer la greffe cardiaque et la greffe pulmonaire conjointement avec les greffes rénales qui sont déjà mises en œuvre. Actuellement, les autorisations sont bloquées jusqu'à 2018, donc il n'y aura pas d'autorisation jusqu'à 2018, et on nous a donc encouragé à étayer notre dossier, à le documenter pour nous inscrire dans un plan qui ira au-delà de 2018 et on travaille actuellement dessus. Mais ça va aussi avec un travail sur l'assistance circulatoire d'une façon générale puisque maintenant les deux sont indissociables.
Très bien.
Bonsoir, c'est au sujet des stents, combien de temps ils sont opérationnels? Et vous avez parlé aussi, c'est toujours au sujet des stents, de suppression des lits. Est-ce que c'est pour ça que maintenant, lorsque vous mettez des stents, c'est en ambulatoire?
Alors, j'ai pas bien entendu le début de la question. C'est la durée des stents. La durée des stents, il n'y a pas durée. Enfin, c'est à vie. Ça s'appelle pas. Il n'y a pas d'altération du stent dans le temps. Par contre, il peut avoir une évolution de la maladie. Et là, ce n'est pas le stent, c'est le fait que la maladie, la propre artère peut, il y a eu une première fois, peut revenir dans un autre endroit. On considère que le stent, s'il pose un problème, c'est dans les 6 premiers mois. À partir du moment où on passe les 6 premiers mois, il est exceptionnel d'avoir une atteinte du stent. Par contre, on peut avoir une évolution de sa maladie si, malheureusement, le diabète n'est pas pris en charge, le cholestérol pose problème, si le tabac, je pense que ce n'est pas votre cas. Mais bon, voilà, si on laisse évoluer les facteurs de risque, on peut voir la maladie évoluer dans un autre endroit. Après, le vieillissement également peut laisser une évolution de la maladie, on peut voir une évolution de la maladie. Quant au développement de l'ambulatoire, il est clair qu'on va faire des coronographies en ambulatoire et des angioplasties en ambulatoire. C'est-à-dire le patient ou la patiente rentre le matin et sort le soir. On fait ça, bien évidemment, en toute sécurité pour le patient. On garantit la sécurité pour le patient. Lorsqu'on fait de l'ambulatoire, ces actes se dérouleront obligatoirement le matin. Nous avons toute une des procédures bien identifiées. Ce ne sont pas des procédures liées propres à Poitiers. Hein. On n'a pas réinventé le fil à couper le beurre. C'est une évolution de l'ensemble du monde de la cardiologie interventionnelle. Je dis bien du monde, parce que il n'y a pas que ça se fait dans beaucoup de pays dans le monde et dans beaucoup de villes en France sur l'ambulatoire. Donc on fait déjà de l'ambulatoire, mais là on passe à la vitesse supérieure et surtout avec un endroit dédié. On a un vrai centre d'ambulatoire, on a un vrai salle d'ambulatoire complètement dédiée à l'ambulatoire, du personnel d'ambulatoire, des médecins d'ambulatoire, une organisation d'ambulatoire. Là, on bricolait un peu et on bricolera plus. Là, on passe vraiment à une échelle professionnelle de l'ambulatoire. Et là, dont je vous parlais, on était en 2008. Comment imaginer en 2008 l'hôpital de 2020? Et ça, c'était ce qui était extraordinaire à faire dans ce travail, dans ce projet. C'est comment imaginer l'hôpital de 2020 alors que vous êtes en 2008. Et vous voyez, déjà en 2008, on parlait d'ambulatoire, supprimer des lits d'hospitalisation classiques, faire de l'innovation, regrouper les plateaux techniques, regrouper les réanimations. Tout ce qu'on parle maintenant, ce que le ministère, etc., parle maintenant, nous, en 2008, on discutait. Comment imaginer en 2008 les salles de cathétérisme de 2020? Comment imaginer les blocs opératoires de 2020? Et ça, ce qui était passionnant à faire. On a beaucoup travaillé, les ingénieurs du biomédical. Je ne sais plus combien de dizaines de personnes qui ont travaillé, voire même peut-être des centaines de personnes ont travaillé sur ce dossier pour le monter. Là, on vous présente fini, mais c'est des heures et des heures et des heures de boulot de l'ensemble des acteurs du CHU de Poitiers et d'autres. On a contacté des industriels pour savoir ce qu'ils avaient dans les cartons. On est allé à droite à gauche jusqu'au Japon pour voir comment demain était. Sommes en 2008, hein. On n'est pas en 2016, nous étions en 2008. Et en 2008, on a ce qu'on dit maintenant, ce que nous dit le ministère maintenant, moins de lits, plus d'ambulatoires, plus d'innovation, plus de techniques. Et nous, et on arrive maintenant, on est prêt.
Ça ne va pas être une question, mais simplement je voudrais rebondir sur la recommandation du docteur Chabrin sur la nécessité d'avoir une activité physique régulière et importante. Et donc je voudrais rappeler simplement qu'au sein de la Fédération française de cardiologie, il y a des clubs cœur et santé qui existent et qui permettent à la fois aux victimes d'accidents cardiovasculaires, mais aussi à titre préventif, d'exercer cette activité physique qui est encadrée à la fois par un cardiologue référent dans chaque club et puis également par des kinés donc, qui veillent à ce que les efforts soient mesurés mais soient réguliers. Et donc les personnes intéressées pourraient consulter le site de la Fédération française de cardiologie pour avoir des contacts éventuellement donc, avec les clubs cœur et santé, qui sont au nombre de 6 dans le Poitou-Charentes.
Pour merci rebondir à vous, sur votre intervention, et je vous remercie de l'avoir précisé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est rien s'il n'y a pas derrière de la prévention et de l'activité physique. C'est vraiment l'interventionnel n'a de sens pour le patient que si derrière, il y a tout ce travail. Sinon, le patient reviendra dans les 3 semaines, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 3 ans qui viennent, il reviendra entre nos mains. Donc ce que je vous dis là, on a beaucoup insisté sur l'interventionnel, mais je l'ai insisté, je répète, l'interventionnel n'est rien sans la prévention, sans ce que vous venez de dire. Et le centre, on a insisté sur l'interventionnel, mais nous avons également... Vous imaginez bien qu'on n'a pas laissé, qu'on a un centre de prévention des maladies cardiovasculaires, qu'on a un centre de prise en charge des maladies chroniques et notamment de l'insuffisance cardiaque. On ne s'arrête pas dans notre offre de soins, on ne s'arrête pas à la technicité. On a également une structure bien structurée, bien définie, avec ses procédures bien organisées pour assurer cette prévention, en collaboration avec le centre de rééducation, en collaboration avec en collaboration avec les clubs cœur et santé, en collaboration avec les libéraux, qui soient cardio ou médecins généralistes, et également avec les associations de patients, qui font un travail important pour nous, pour eux d'abord, mais pour nous également. Et nous, c'est un plaisir, lorsqu'on est invité par les associations, de venir discuter avec elles, parce que c'est presque aussi important que ce qu'on fait quotidiennement et notre interventionnel. Alors nous, ça fait plaisir, on met des trucs partout, etc. Mais voilà, après, il y a le reste, et le reste est aussi important.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a posé toutes les questions. Je voudrais remercier bien sûr les intervenants. Vous pouvez les applaudir, parce qu'ils ont été très très précis dans leurs réponses. Merci beaucoup à l'équipe d'organisation, le CHU, l'Espace Mendès France, l'équipe technique qui est là, vous public. Vous allez pouvoir réécouter, je vous le rappelle, toutes les interventions sur le site soit du CHU, soit sur Mendès France. Vous pensez à remplir le formulaire que l'on vous a remis et vous le redonnez à la fin. Je vous rappelle les journées portes ouvertes pour le centre, c'est les 3 et 4 décembre de 13 à 18 heures. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain Pôle Info Santé le 8 décembre. Et on continuera le sujet puisque la thématique sera les prises en charge modernes des maladies cardiovasculaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre attention.